Bonjour David, bonjour à tous. Maîtrise des dépenses et volontarisme dans les investissements, le résumé du budget de l'Aglo 2B 2026 voté mardi soir. Le débat sur l'éolien s'est invité à la table de ce conseil communautaire au détour d'une délibération sur la première révision du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Le campus des Sécaudières à Bressuire, théâtre hier de la finale Poitou-Charente des Ovimpiades des jeunes bergers. Plus d'une trentaine de jeunes Picto-Charentais étaient en compétition. Le salon régional des métiers et des formations de la mode ce jeudi à Cholet, un rendez-vous qui dépasse largement les frontières des Mauges. La salle Hesperida de Louzy près de Tours accueillera ce samedi la seconde édition de la Winter Zone des DJ. Ils seront 7 à la manœuvre. Quant à la météo, nuages, pluie et vent, c'est le menu de notre après-midi. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, vient de nommer Dominique Ferrière au poste de coordonnateur national chargé d'informer et d'accompagner les filles, les familles et victimes dans leurs différentes démarches suite au dramatique incendie de Cran Montana, rapportent nos confrères du Courrier de l'Ouest. L'ancien président du tribunal de grande instance de Bressuire de 94 à 99, passé par la Corse ou encore la cour d'appel de Bordeaux, aujourd'hui en retraite, mais loin d'être inactif puisqu'il occupe les fonctions de président de Rebond, association cerisienne de protection de l'enfance. Dominique Ferrière, donc, aux côtés d'Emmanuel Bouer, ancien administrateur judiciaire, devra assurer le lien, notamment entre les victimes, leurs familles, les autorités suisses, l'administration, les assureurs et l'ensemble des organismes concernés. Leur action portera également sur la question de l'indemnisation et devra permettre la prise en charge spécifique des victimes blessées et de leurs proches. Rappelons que 9 Français ont perdu la vie et un peu plus d'une vingtaine d'autres ont été blessés le 1er janvier dernier lors de l'incendie du bar Le Constellation. Le comité social académique a arrêté mardi les mesures de rentrée 2026. Elles ont été présentées aux représentants des personnels par le recteur d'académie dans un contexte de baisse continue des effectifs depuis 10 ans. Moins 719 élèves dans le premier degré en Deux-Sèvres. Notre département perdrait 28 postes d'enseignants. Dans le second degré, la prévision pour la rentrée 2026 est une perte de 1656 élèves sur l'ensemble de l'académie. Académie qui se voit appliquer une mesure d'ajustement de moins 106 équivalents temps plein. L'Aglo 2B a donc voté son budget mardi soir, nous l'évoquions hier, budget qui se veut maîtrisé et volontariste, avec près de 30 millions d'euros d'investissement et 67 millions en fonctionnement. La collectivité poursuit les projets engagés sur les piscines, on en reparlera, mais aussi autour de l'accueil de la petite enfance ou encore le développement économique au travers des zones qui maillent son territoire. Emmanuelle Ménard, vice-présidente de l'Aglo 2B en charge de l'économie.
Nous avons 61 zones économiques sur l'agglo. Nous avons eu l'agrandissement d'Alpha Park et de la Foresterie en 2025. Et nous allons donc avoir la zone de la gare à Mauléon pour 2026. Donc c'est une continuité tout en ayant cette volonté d'investir toujours pour le monde économique.
Une part importante des investissements concerne également la préservation de la qualité de l'eau et la collecte des déchets. Claude Pouzin, autre vice-président, en charge lui du budget et des finances.
Les deux budgets annexes que sont le budget assainissement et le budget déchets sont des budgets qui ont toujours des gros programmes d'investissement. Je pense surtout à l'assainissement puisqu'il y a des rénovations de stations d'épuration. On est sur la station d'Argentonnet pour l'année 2026 et puis le lancement sur Saint-Amand sur Sèvres. Puis toujours un gros programme de rénovation de réseau autour de 4 millions hein, sur le réseau au pluvial et au usé. C'est toujours des gros volets d'investissement. Et sur le programme des déchetteries, j'ai envie de dire, on en est au début. On va finaliser l'installation des colonnes de déchets, plus les biodéchets. Et puis derrière, il faudra enchaîner sur un gros programme de rénovation des déchetteries elles-mêmes, voire de construction de nouvelles déchetteries. C'est un gros programme pour les années à venir.
Claude Pouzin, dont le travail a été salué par Pierre-Yves Marolo. Les deux élus passeront la main dans quelques semaines, dans de bonnes conditions, selon le président de l'Aglo 2B qui s'exprimait sur le sujet hier matin sur Colline. Lors de cette même réunion communautaire, le sujet de l'éolien est revenu à la table. Les élus devaient en effet délibérer sur la révision allégée du plan local d'urbanisme. Allégée étant en l'occurrence assez peu appropriée, tant le travail effectué a été important autant pour les services que pour les élus concernés. Explication avec le reportage de Fabien Gazot.
Un travail de fourmi pas toujours très bien compris. Et c'est sans doute ce qui a contribué à crisper les débats lorsque Maryse Nourisson, maire déléguée de Montigny, rejointe dans son propos par Thierry Marolo, maire de la Forêt, a demandé à ce que le zonage prévu à Courlay, mais à proximité immédiate de Montigny, soit retiré de la carte. Les élus Claude Pouzin et Jérôme Baron en tête ont alors défendu leur choix. Le meilleur compromis, selon André Guillermic, maire de Courlay, qui estime également que l'association qui s'y oppose, Bocage Vent Debout, était parfaitement informée. André Guillermic.
La loi Imper imposait aux communes de définir des zones d'accélération. Donc on s'est appuyé sur des documents fournis par les services de l'État d'ailleurs pour définir ces zones. Et ensuite la possibilité de définir des zones d'exclusion. Donc si on n'avait pas de zone d'accélération, il n'était pas possible d'exclure. Dans un premier temps, donc la zone du Coudray avait été définie comme une zone A éole 1, c'est-à-dire prioritaire si on veut, pour définir un projet de construction d'éoliennes. Suite à une rencontre avec l'association Debout, on a décidé de classer ces zones en AEOL 2, c'est-à-dire qu'on répond à l'exigence de la loi Appert, mais en fait on garde la main et ce n'est pas une priorité de développer de l'éolien sur ce site.
AOL 2 est un garde-fou ?
Oui, c'est un garde-fou, c'est le meilleur compromis entre avoir une zone d'accélération prioritaire et rien du tout, où là du coup les constructeurs pourraient venir sans nous demander notre avis.
L'Aglo de B estime avoir fait un vrai travail de fond pour permettre un développement des énergies renouvelables tout en gardant le contrôle face à des promoteurs offensifs, parfois insistants, même si la tendance semble s'être calmée un peu. Jérôme Baron, vice-président en charge du dossier.
On a souhaité reprendre la main en disant que le développement éolien qu'on avait subi jusque dans les années 2020-2021, qui s'est fortement ralenti depuis, faut le dire, que ce développement éolien méritait qu'on définisse des zonages bien particulier. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a maintenant un document de planification qui est approuvé ce soir et qui nous permet de guider finalement à la fois les développeurs mais aussi tout à chacun sur finalement les devenirs possibles pour son territoire. Et c'est pas parce qu'on a des zonages que nous avons des projets. Je veux aussi préciser que les développements éoliens aujourd'hui terrestres sont très très limités et en particulier limités aux zones où on a déjà des parcs éolien qu'il s'agirait de densifier ou de renforcer. On peut atteindre une puissance qui sera satisfaisante et suffisante pour notre mix énergétique à l'échelle du territoire. Si bien que ouvrir des nouvelles zones pour pouvoir accueillir des nouvelles éoliennes, c'est pas à l'ordre du jour.
Ainsi, pour en revenir au cas particulier de Courlay, si un promoteur souhaite réaliser un projet sur la zone de Coudray, il faudra réviser le PLUI, ce qui fait que les élus gardent la main.
Merci beaucoup Fabien Gazot. Frédéric Lenoir en conférence à Bressuire mercredi prochain le 11 février et ce à l'invitation du CERA, le Centre d'échange et de réflexion pour l'avenir. Auteur du livre L'Odyssée du Sacré, Frédéric Lenoir contera la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours et projettera le public dans les années à venir autour du thème Quelle humanité en 2051. Plus qu'une conférence, une véritable expérience transformative offrant des outils simples de résilience et d'éveil et des perspectives profondément inspirantes, promet le CERA auprès duquel vous pouvez vous inscrire. Le tarif, c'est 20 euros par personne. C'est gratuit pour les moins de 30 ans et les adhérents du CERA et leurs invités. Frédéric Lenoir donnera donc cette conférence à Bocapol-Bressuire mercredi prochain de 19 à 21h30. La finale Poitou-Charentes des Olympiades des jeunes bergers avait lieu hier mercredi au campus des Sicaudières à Bressuire. Plus d'une trentaine d'élèves de 16 à 24 ans issus des établissements d'enseignement agricole des différents départements de la région ont concouru pour tenter de se qualifier pour la finale nationale qui se déroulera lors du Salon de l'Agriculture à Paris le 21 février à venir. La Nouvelle-Aquitaine emmènera 6 jeunes, dont 2 qui ont été sélectionnés hier. Un concours organisé par Innovin avec l'appui de l'établissement Bressuré. Nicolas Faury est animateur du comité Innovin en Nouvelle-Aquitaine. Il reconnaît sans détour que ce concours vise avant tout à créer des vocations.
Pour donner envie aux jeunes de s'intéresser à la filière ovine, pour attirer des jeunes vers cette filière qui est dynamique. Et donc l'idée de ces Olympiades, c'est de regrouper un peu plusieurs épreuves qui correspondent un peu au quotidien des éleveurs et de les faire concourir avec différentes notations. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de pouvoir attirer un maximum de jeunes vers le métier d'éleveur, mais pas que, puisque la filière est recrute dans son ensemble. Donc il y a la partie élevage, mais aussi la partie, toutes les structures partenaires qui sont présentes aujourd'hui dans les différents jurys recherchent aussi à attirer des jeunes dans leur structure en tant que technicien, être sur le terrain, puisque l'accompagnement technique est aussi au cœur des préoccupations de la filière ovine.
Aujourd'hui, 56% de la viande ovine consommée en France est importée. La filière vise un objectif on ne peut plus clair, plus d'1 million d'agneaux français produits par an, mais pour y parvenir, il faudra donc susciter les vocations. Éric Génin, enseignant en zootechnie au campus des Écolières.
C'est bien pour renouveler les générations, parce qu'on a beaucoup d'éleveurs d'ovins qui ont la cinquantaine et il va falloir trouver des repreneurs. Donc on est là pour ça, pour mettre en avant la filière au travers des petits exercices pratiques, de leur faire rencontrer des professionnels, des techniciens, des agriculteurs.
Est-ce que vous sentez parmi les jeunes cette volonté d'aller vers cette filière ovine ?
Le mouton, c'est toujours un peu l'animal du pauvre, donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais on a toujours quelques jeunes qui sont motivés pour cette filière, heureusement.
Souvent parce que les parents sont eux-mêmes dans la filière ?
Voilà, souvent parce que les parents sont dans la filière, oui.
C'est rare qu'on ait des hors-cadres familiales dans cette filière ovine ?
On en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. On en a de plus en plus, mais c'est pas la majorité encore.
La majorité des étudiants en filière ovine est donc issue de ce milieu, et c'est le cas de Clément, en première SGEA, et dont les parents élèvent des moutons du côté de Saint-Mexant.
Moi, oui, je vais me destiner à la filière ovine et reprendre l'exploitation familiale qui est en ovin.
Tu suis la tradition familiale ou ça te plaît réellement ?
Non, depuis tout petit, j'ai toujours aimé ces animaux, alors pourquoi pas continuer ?
La finale, le Poitou-Charentes des Ovimpiades des jeunes bergers avait donc lieu toute la journée d'hier au campus des Sicaudières à Bressuire, et à l'issue des différentes épreuves, ont obtenu leur billet pour la finale nationale à Paris, je vous le rappelle, le 21 février à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Romain Royou de Mel et Mathis Brachet de Montmorillon. Le Salon régional des métiers et des formations de la mode a lieu ce jeudi à Cholet. Il est organisé par le campus des métiers et des qualifications industrie créative de la mode et du luxe en Pays de la Loire. C'est la 4e édition du Mode Avenir, le Salon régional des métiers et des formations de la mode. On parle là de confection, de maroquinerie, de chaussures, de bijouterie, et ce, avec le concours des entreprises et centres de formation du territoire ligérien. Mais le bassin s'étend également en nord de Sèvres. Nathalie Robin, directrice opérationnelle du campus au micro-colline de Vincent Nori.
On a des jeunes qui viennent pour s'orienter, ça fait partie de leur parcours à venir, des demandeurs d'emploi qui sont en recherche, des salariés en quête de reconversion, et donc tous ces publics-là vont rencontrer des entreprises qui recrutent ou des centres de formation qui forment justement aux métiers dont ont besoin les industriels du territoire, effectivement, comme vous le disiez, élargi, puisque la région de Bressuire, mais tous les pays de la Loire également, ont des besoins sur ces métiers-là.
Mode Avenir, le Salon régional des métiers et des formations de la mode a lieu ce jeudi jusqu'à 17h à la salle des fêtes de Cholet à côté de Glycéo. Ouverture à 17h cet après-midi du parc de loisirs indoor Mama Arena à Bressuire. Situé dans la zone de Saint-Porchère, cet espace multi-activité de 1800 m² propose une foule d'activités ludiques. Action game, quiz room, réalité virtuelle, karaoké, jeux de rythme, jeux d'arcade, trampoline park et autres city jump. La Winter Zone des DJ remet le couvert en Toircé. Le deuxième rendez-vous annuel des DJ aura lieu ce samedi à la salle Esperida de Louzy, c'est près de Thouars. Une soirée musicale avec au total 7 DJ. Parmi eux, Colin Hérault, alias CHR, originaire d'Argentonnet. Il se dit très heureux de participer, d'y participer. Il est au micro-colline de notre correspondant Toircé, Dominique Hérault.
Moi, c'est plutôt varié autour de la techno. En ce moment, c'est plutôt tendance trance, groove et la musique électronique mais tournée autour de la techno. On a l'impression que maintenant, aujourd'hui, le DJ veut se démarquer en proposant une musique de plus en plus rapide et de plus en plus énervée. Et moi, de par ma musique, j'essaye de ne pas rentrer dans cette catégorie-là. C'est plus une musique, on va dire, dansante. J'essaye de rentrer en connexion avec le public. C'est rapide, mais pas très énervé. En général, c'est plutôt les jeunes qui découvrent cette musique-là, donc on va dire entre 18 et 25 ans. Mais après, voilà, il m'est arrivé de faire quelques soirées, par exemple à la salle Emeraude à Bressuire, où là, la tranche d'âge était un peu plus élevée, on va dire autour de 30-40 ans. Et là où, du coup, j'essayais de démarquer en proposant une techno un peu plus ancienne et qui peut toucher ce public-là.
Aux côtés du bouquin CHR que vous venez d'entendre, on retrouvera aussi le Toircé Paul Pacrot, alias PLP, Nivek, David Crockett Crew et les Bordelais de Roots Zombie pour cette Winter Zone à Louzy près de Thouars. Entrée 4 euros. C'est donc ce samedi pour 7 DJ et divers stands d'animation. Tout cela à partir de 20h. L'actualité sportive en football. Le FC Nyobi a annoncé la signature d'un renfort offensif en la personne de Bilal Ghazi, 20 ans seulement, mais déjà passé par des clubs de renom comme Bastia ou encore l'AEK Athènes. Autre recrue de choix, le FC Choré s'offre les services de l'international congolais Warren Chimbembe, 27 ans, 1m80. Formé à 3, ce dernier a effectué ses débuts chez les professionnels en 2018 et a notamment évolué en Ligue 1 au sein du FC Metz.